Bonjour à tous, vous êtes bien sur RDC 93.4 et 92.5 sur la région de Saintes. Aujourd'hui, nous sommes bien le samedi 21 septembre 2024. C'est la rentrée. Me revoilà sur RDC pour vous présenter votre émission à vos oreilles avec Alizé. Je vous propose un format un peu différent pour cette rentrée, un format sur une heure. Je commence l'émission à 14h, le troisième samedi de chaque mois, et je la terminerai à 15h. Il y aura bien sûr quelques pauses musicales pendant lesquelles les auditeurs, auditrices peuvent appeler la radio et nous pouvons échanger hors antenne. Je continue le rythme de une émission par mois. Notre prochain rendez-vous, ce sera en octobre, le samedi 19 octobre, de 14h à 15h. Pour le fond, l'émission ne change pas. Je suis toujours en lecture, à voix haute de préférence, sur des romans, des nouvelles. Et aujourd'hui, pour cette émission, j'ai prévu un petit livre, Le Château de la Rochefoucauld. Et oui, c'est à l'occasion d'une visite du château de la Rochefoucauld avec ma famille au mois de mai que j'ai pu découvrir un très très beau château, un très bel environnement, une grande épopée, une grande histoire aussi. Et du coup, j'ai pu récupérer un fascicule d'une trentaine de pages sur l'histoire passée, actuelle aussi, du château de la Rochefoucauld. Donc pour cette rentrée, je vous propose de partir sur ce livre-là. Je vais partir sur 20 minutes de lecture, une pause musicale, 20 minutes de lecture, une pause musicale et certainement derrière un quart d'heure ou 10 minutes en fonction de lecture. Donc ce livre a été acheté directement par moi-même et ma famille auprès du château de la Rochefoucauld. Et je vais commencer la lecture, une épopée familiale millénaire. Alors, comme d'habitude, je vous propose de bien vous installer, canapé, chaise, d'être au calme, un petit café, une petite tisane en fonction des gens, des goûts de chacun. Et c'est parti pour la lecture, 20 premières minutes. Le château de la Rochefoucauld. Une famille illustre. Famille illustre, les La Rochefoucauld ont gagné leur galon par l'épée et ont participé à la construction sociale et morale d'une France en mouvement. Avec elle, nous remontons le temps. Nous racontons une famille, la vie d'un château et 1000 ans d'histoire. Au cours des siècles, ces hommes et ces femmes ont posé un œil critique sur les événements tout en restant fidèles à leurs idéaux sans jamais se soumettre. Le château de la Rochefoucauld est le témoin d'un passé révolu et garde dans ses murs l'écho des passions de son temps. Voici son histoire. Le Moyen Âge. Émergence d'une famille sous le règne d'Hugues Capet. C'est sur un piton rocheux que notre histoire commence. Celui-là même qui domine la rivière Tardoire, carrefour incontournable pour la circulation des marchandises, notamment le sel, entre l'océan, le Limousin, l'Auvergne et le Lyonnais. Le jeune Foucault Ier, Fucaldus, parent proche du puissant vicomte de Limoges, est missionné pour construire un camp fortifié à cet endroit stratégique, afin de protéger la contrée des envahisseurs et d'assurer le bon fonctionnement des échanges commerciaux. Pour lutter contre les destructeurs des récoltes et des églises, les tueurs des indigents et du bétail, Foucault II fait construire le donjon carré, fortifier l'enceinte, bâtir l'église Saint-Pierre de la basse ville et établir un cimetière ou rendre justice. C'est dans un acte de 1019 qu'il est qualifié de vir nobilissimus, très noble homme, superlatif réservé aux individus issus de l'aristocratie franque et appartenant à l'ancien ordre carolingien. Les archéologues datent la construction du donjon aux alentours des années 1030 et le considèrent avec celui de Loches comme l'un des plus anciens de France. Cette première construction carrée, au mur d'environ 12 mètres de côté, d'une épaisseur de 2,5 mètres, s'élevait à 16 mètres du sol. Il n'était composé que d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage. Selon les techniques de l'époque, le rez-de-chaussée d'une hauteur de 10 mètres ne comprenait ni porte ni fenêtre. Seule une trappe ouverte dans la voûte permettait d'atteindre le premier étage à l'aide de passerelles en bois, détruites lorsque l'ennemi se présentait. Ce qui donnait à cette structure un caractère imprenable. Sous cet édifice, des galeries souterraines creusées par l'eau ont été partiellement aménagées à l'époque médiévale. Elles existent toujours et se visitent encore aujourd'hui. Ces galeries avaient un rôle primordial en cas de siège ou de guerre, car elles permettaient un accès direct vers l'extérieur. Elles ont très certainement eu leur utilité lors d'un affrontement qui opposa Guy IV de la Rochefoucauld au comte d'Angoulême, Guillaume V, Taillefer, dans les années 1140. Cette guerre trouve ses origines dans un conflit d'intérêts et de puissance entre le comte d'Angoulême et les La Rochefoucauld qui, au fur et à mesure des décennies, développaient leur influence économique et politique. L'origine du nom. Foucault donne son nom à cette forteresse qui deviendra aussi une cité et crée ainsi le lignage des La Rochefoucauld Fucaldus in Rupe, c'est-à-dire la roche à Foucault, puis la Rochefoucauld. Les noms patronymiques apparaissent au début du XIIIe siècle et la maison de la Rochefoucauld se fixe définitivement à cette époque, à la 9e génération après Foucault. Mélusine, un mythe médiéval. La fée Mélusine, elle-même fille de la fée Précine, se voit répudiée par son père par manque de respect. « Tu seras serpent depuis la ceinture jusqu'en bas tous les samedis. » Tel fut son châtiment. Chassée, Mélusine prend le chemin de la forêt. C'est là qu'elle rencontre le jeune Raymondin qui, ayant accidentellement tué son oncle lors d'une partie de chasse, s'y était réfugié, fou de douleur. Mélusine le réconforte et lui prédit que s'il l'épouse, il deviendra un puissant seigneur, à la seule condition qu'il respecte l'engagement de ne pas la voir le samedi. Raymondin accepte et devient ainsi seigneur de Lusignan. Ils ont 10 garçons, beaux et forts, à ceci près que chacun a une tare physique. Cela n'empêchera pas à 4 de leurs fils de devenir roi de Chypre, roi d'Arménie, duc de Luxembourg et roi de Bohême. Un samedi, n'y tenant plus, Raymondin décide de suivre sa femme. Il la découvre dans un bassin rempli d'eau, le corps terminé par une grosse queue de serpent, s'exclamant « C'est mon plaisir !» Sachant son secret découvert, Mélusine disparaît dans un grand cri de désolation et retourne à sa malheureuse destinée jusqu'à la fin du monde. Certains disent que l'esprit de la fée Mélusine habite encore le château de la Rochefoucauld. Le blason. Il apparaît au XIIe siècle avec Guy IV de la Rochefoucauld, fils de Robert de Marton et d'Emma de la Rochefoucauld, seule héritière d'Adhémar II de la Rochefoucauld. Elle transmet ainsi à son fils son nom de baptême et ses possessions qui sont les châteaux de la Rochefoucauld, de Verteuil et de Blanzac. Son père, descendant d'un cadet des Lusignans, il en adopte ses armoiries. Le blason reprend donc les armes des Lusignans, c'est-à-dire les brisures, argent et azur, les chevrons de gueule dont le premier est essimé indiquent être une branche cadette des Lusignans. Au Moyen-Âge, le blason avait un rôle primordial pour reconnaître l'appartenance des combattants. Au XIVe siècle, le blason s'enrichit d'un cimier au-dessus de l'écu et de 2 sauvages armés de massures. Au XVIIIe siècle, il prend sa forme définitive avec la couronne ducale surmontée de la fée Mélusine. La devise « C'est mon plaisir » est apposée sur le manteau. On a notamment dans le livre une gravure au burin de Jean-Jérôme Beaujean, 18e-19e siècle, qui représente le château de la Rochefoucauld au Moyen-Âge. Une très belle gravure. C'est en mettant le feu à la forteresse que Guillaume V Taillefer met fin à ses hostilités. Ne subsistera de cet incendie que le donjon en pierre. Les enceintes, à cette époque, étant construites en bois. Endommagé, le donjon est reconstruit dans le style roman. Les grands arceaux sur la face en sont des vestiges toujours visibles. Grâce à des mariages avisés, la famille étend ses possessions et acquiert les châteaux de Verteuil, de Chabanais et de Confolens, puis les terres de Marton, Blanzac et Selfroin. À ces lignages s'ajoutent des choix politiques et spirituels habiles. Les La Rochefoucauld participent à l'émergence d'un monde nouveau. Au XIIIe siècle, le château de La Rochefoucauld se définit comme une forteresse médiévale. Alors là, nous avons sur cette page-là un grand tableau qui représente la généalogie des La Rochefoucauld, qu'on peut admirer dans la chapelle directement, où ça retrace les débuts avec les La Rochefoucauld et bien sûr toute leur descendance, toute la lignée. La guerre de Cent Ans, grand vassal et intime des rois. La guerre de Cent Ans, 1336 à 1453, dont la région est l'un des principaux théâtres, voit une véritable montée en puissance du prestige dès La Rochefoucauld. La forteresse se modifie en 1350 avec la construction du châtelet d'entrée composé de ses gracieuses tours jumelles. En choisissant de défendre les Valois, Guy VII débute une longue fidélité à la couronne française. Un soutien sans faille qui dure pendant toute la guerre de Cent Ans et qui permet à la famille d'obtenir les faveurs royales. Ainsi, le roi Charles VI nomme Guy VIII chambellan en 1394. À travers cette charge transmise de père en fils, les La Rochefoucauld furent pendant tout le Moyen-Âge des conseillers omniprésents auprès des rois de France. C'est au château de La Rochefoucauld, le 17 juillet 1453, que le roi Charles VII, qui a établi son camp militaire, reçoit des messagers lui annonçant la bonne nouvelle de la victoire de Castillon, mettant un terme à la guerre de Cent Ans. Dans la collégiale de La Rochefoucauld résonne le premier Te Deum de la victoire définitive sur les Anglais. Jean Ier de La Rochefoucauld, petit-fils de Guy VIII, procède à des modifications importantes en érigeant trois tours d'angle et en surélevant le donjon, symbole de sa puissance, à une hauteur de 33 mètres. C'est aussi en 1453 que le roi donne à Jean Ier le gouvernement de la ville de Bayonne et le choisit comme le plus puissant de tous les vassaux du comte d'Angoulême pour être gouverneur de la personne et tuteur des biens de Charles d'Orléans, comte d'Angoulême. Louis XI, en 1468, le nomme sénéchal du Périgord et le qualifie alors de son aimé et féal cousin. Grand vassaux et intime du roi, les La Rochefoucauld le resteront durant de nombreuses générations. Je vous propose un temps musical, une petite pause de 2 minutes 42 pour être précise, avec une artiste, Pink Martini, que je vous mets de suite. On se retrouve très vite.
Ma chambre a la forme d'une cage, le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, millions de roses n'embaumeraient pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas
Vous êtes toujours sur RDC 93.4 et 92.5 sur la région de Saintes. Vous pouvez aussi écouter les émissions de RDC sur le site internet www.radio-6rdcfm.com. Je sais que certaines personnes autour de moi m'écoutent via ce canal, que je remercie beaucoup. C'est toujours un très bon soutien, très agréable. Et je m'en vais continuer cette petite histoire sur le château de la Rochefoucauld. Nous en étions à la guerre de Cent Ans. Nous en étions à Louis XI plus particulièrement, qui, en 1468, nomme sénéchal du Périgord et qualifie alors de son aimé et féal cousin le comte d'Angoulême. Grand vassaux et intime du roi, les La Rochefoucauld le resteront durant de nombreuses générations. Chambellan du roi. Le chambellan avait alors une mission très importante. Il devait organiser, à une époque où la cour était itinérante, le transport et la mise en place de la garde-robe du roi, de ses meubles, de ses tapisseries et de ses coffres. Un véritable rôle de confiance et de proximité avec le roi. La Renaissance, l'association de deux énergies. La paix retrouvée, le château délaisse sa vocation militaire et défensive pour une fonction résidentielle. Les combattants démobilisés retrouvent leur maison, plus ou moins intacte, et ont le désir de les mettre au goût du jour. François II de La Rochefoucauld est contemporain et proche du roi de France. Son père, François Ier de La Rochefoucauld, a l'honneur d'être en 1494 le parrain du petit comte d'Angoulême et lui donne son nom de baptême. Ce dernier deviendra roi de France sous le nom de François Ier en 1515. Dès son avènement au trône, le roi érige la baronnie de La Rochefoucauld, baronnie depuis 1299, en comté. Les premières lettres patentes, celles de 1515, furent perdues et durent être renouvelées à la requête de François II, et c'est en 1528 que les nouvelles lettres furent enregistrées par le Parlement. Le roi récompensait ainsi les très bons et très recommandable service que feu notre très cher et aimé cousin et parrain, conseiller chambellan ordinaire, a pour ci-devant fait à nos prédécesseurs, à la couronne de France, et à nous auparavant depuis son avènement jusqu'à son trépas. C'est à partir de cette époque que tous les aînés de la famille reçurent le prénom de François. Cette tradition perdure toujours puisque le propriétaire actuel se nomme François Alexandre et son fils François Xavier. Anne de Polignac. Qui était-elle ? Alors Anne de Polignac, élevée en Italie, à Mantoue, a été nourrie de ce courant émergent qu'est la Renaissance italienne. Son père, Jean de Polignac, a été lieutenant général pour le roi en Italie, gouverneur des cités et châteaux de Livourne et de Pietrasanta. Elle a pour marraine et bienfaitrice Anne de Beaujeu, fille de Louis XI, régente de France à la mort de son père. Ses lectures spirituelles et profanes révèlent sa grande ouverture d'esprit et sa culture. Il semblerait même qu'elle parle aisément le grec et le latin. elle se constitue une bibliothèque de tout premier ordre dans laquelle figurent les mémoires de son oncle Philippe de Comines, célèbre chroniqueur de cette époque, et l'œuvre de Pic de la Mirandole, philosophe et humaniste italien renommé. Nous avons sur cette page dans le livre une représentation en peinture du château au XVIe siècle, donc qui a déjà beaucoup évolué, déjà beaucoup de restaurations faites, et bien sûr le temps qui s'est imprimé sur ce château, les façades en fonction des différents styles, là notamment la Renaissance. Et nous avons là aussi une représentation de François II de La Rochefoucauld et Anne de Polignac, en noir et blanc, de style gravure. Dès 1519, le jeune couple François II de La Rochefoucauld, 25 ans, et sa femme Anne de Polignac, 23 ans, décide de renouveler entièrement le décor intérieur du château, ainsi que la manière de vivre au quotidien, dans le souci de se rendre plus accessible et de communiquer avec l'extérieur. En s'imposant, Anne de Polignac sort les femmes de l'anonymat. Éducatrice, érudite, bibliophile, mécène des lettres, pieuse, elle est aussi bâtisseuse et c'est à La Rochefoucauld qu'elle met en pratique sa vocation. Nous pouvons justement admirer du point de vue des photos qui sont mises sur cette page, des statuaires visibles au premier étage des galeries du château, initiales des fondateurs du château de Renaissance qu'on retrouve avec le F de François, le A de Anne de Polignac, ces statuaires qui sont aussi visibles au rez-de-chaussée des galeries, et bien sûr toute une série de voûtes plates en forme de compartiments carré, on a vraiment une partie du château qui est calquée sur la Renaissance italienne et cette architecture très précise. François II adhère pleinement à ce projet. Ayant lui-même découvert l'Italie lors des campagnes militaires menées par François Ier, roi de France, avec qui il sera fait prisonnier en 1525 à Pavie. La métamorphose de la forteresse. En engageant ces nouveaux travaux, le couple manifeste dans l'architecture l'expression d'une gloire et d'un pouvoir acquis sur les champs de bataille. À partir de 1520, Anne de Polignac entame la construction des galeries, du grand escalier et des façades extérieures dans le style Renaissance, tout en gardant intactes les parties anciennes les plus significatives, comme le puissant donjon, le gracieux châtelet d'entrée et les tours d'angle. C'est une volonté délibérée d'un consensus entre la culture du chevalier et celle de l'humaniste. De la forteresse naît un château. Selon l'historien de l'art François Gébelin, il semblerait que le projet de Léonard de Vinci pour le château de Romorantin en Loir-et-Cher, qui ne sortira jamais de terre, ait inspiré Anne de Polignac. Les galeries. L'originalité la plus profonde du château réside dans le décor de la cour. Celle-ci devait être bordée d'une ordonnance uniforme. Mais l'aile nord ne fut pas bâtie et l'aile ouest, incendiée, a été reconstruite au XVIIIe siècle. À l'aplomb de la tour de la chapelle, on peut voir des pierres datant à l'extérieur, car le projet de construction de la galerie était celle d'un patio fermé. Sur les deux autres côtés se déploie l'étonnant décor d'un cortilé à l'italienne, entièrement tapissé de portiques à arcades sur trois niveaux. Ce parti est exceptionnel et en fait une œuvre originale et singulière en France. Ce cortile reproduit le dessin du peintre et architecte Bramante à la cour Saint-Damase au Vatican. Aux deux premiers niveaux, le traitement régulier des arcades, séparées par des piliers auxquels s'adossent des pilastres à chapiteaux corinthiens, rappelle les modèles italiens. Au-dessus des pilastres et des arcs se dessine la ligne continue d'un entablement à l'antique complet. Architrave, frise, corniche. Des disques s'inscrivent discrètement dans les écoinçons. La bordure de rive, qui court à la naissance du comble, est formée d'une alternance de pinacles et de petits gables ondulés à coquilles. Cette bordure sculptée qui supplante ici les grandes lucarnes est appelée à un avenir prometteur, puisque 50 ans plus tard, Pierre Lescot les reproduira au Louvre. Ces galeries si originales offrent à chaque étage des différences. Elles sont couvertes de voûtes plates, soit en forme d'étoile au rez-de-chaussée, soit en forme de compartiment carré au premier étage. Entre chaque travée, un arc retombe sur des culots sculptés représentant au rez-de-chaussée des petits personnages, issus du bestiaire médiéval ou des angelots, et au premier étage des figures ailées. Ces galeries sont la représentation d'un nouveau mode de vie ouvert sur l'extérieur, et elles laissent la place à la lumière, tout comme les idées des humanistes de la Renaissance. Les portes. Deux magnifiques portes s'ouvrent à tous les étages des galeries, notamment la porte de la chapelle et celle du grand escalier. Ces portes reflètent le goût prononcé de la Renaissance italienne pour l'Antiquité. La porte de la chapelle est encadrée par deux colonnes cannelées surmontées de chapiteaux corinthiens comportant le F et le A. La porte est en arc surbaissé et des angelots ornent la voussure. Au-dessus se déroule un motif appelé chien courant, typiquement florentin. L'entablement comporte quatre personnages, représentant probablement les apôtres. Paul avec son épée, Jacques le Majeur avec le bourdon de pèlerin, Philippe avec la croix en taux, et Simon avec la scie. En haut de l'entablement, un motif grec rappelle encore une fois l'Antiquité. La porte du grand escalier. C'est la même élévation que celle de la chapelle. Toujours le F pour François et le A pour Anne sur la voussure. L'entablement s'orne de trois personnages. Au centre, François II de la Rochefoucauld. À droite, Anne de Polignac. À gauche, leur fils François III. Sur l'entablement figure un cartouche comportant la date de 1528. Pour François de la Rochefoucauld et Anne de Polignac, pour qui l'architecture est l'expression d'un pouvoir, il fallait bien de la hardiesse pour graver leurs initiales F et A tout au long des façades et sur les portes. Tant de hardiesse qu'ils ont peut-être joué sur l'ambiguïté, ce F et ce A étant également les initiales de leur protecteur, François Ier et Anne de Beaujeu. Le grand escalier. À l'intérieur, l'escalier d'apparat, chef-d'œuvre de la Renaissance, comme ceux de Chambord et de Blois, ample et lumineux, s'inscrit largement dans un rectangle qui part du sous-sol, où se trouvent les cuisines, et monte jusqu'au comble. Les marches, au nombre de 108, s'égrènent autour d'un noyau central puissamment torsadé, orné de moulures en spirale à hauteur d'appui. Toutes les marches, malgré leur longueur, sont d'une seule pièce. elles sont larges et n'ont que 13 ou 14 cm de haut. La montée est aussi peu fatigante que possible. Au plafond, un limon s'enroule sans interruption du sous-sol au dernier étage. Ce dernier est soutenu par des petits arcs terminés par des culots sculptés. La statuaire est riche et inventive, représentant des animaux réels ou imaginaires, tels que la salamandre, immortelle, puisqu'elle peut, selon la mythologie grecque, vivre dans le feu sans être consumée, symbole repris par le roi François Ier. Le pélican, symbole au Moyen-Âge de piété chrétienne, car on croyait qu'il perçait sa propre chair pour nourrir ses petits de son sang, ce qui rappelle le sacrifice du Christ pour sauver l'humanité. La statue la plus importante est celle du fou du roi, sculptée au sommet de l'escalier. Elle reste un mystère. On suppose qu'elle se réfère à l'éloge de la folie d'Érasme, écrite en 1511. Cet humaniste hollandais se moque de l'orgueil des hommes. Thème de réflexion récurrent à la Renaissance. La statue est vêtue du costume traditionnel du bouffon du roi. Il tient dans ses mains les ailes d'un oiseau prêt à prendre son vol, hélas décapité à la Révolution. Il semblerait que cet oiseau soit une chouette, symbole de la sagesse. Le fou, sans le savoir, parle vrai. Également, tout en haut de l'escalier, le plafond est décoré de 8 nervures qui se rejoignent pour former des clés pendantes ornées de corbeilles de fleurs ou de fruits. L'intérieur de ces clés, martelées à la Révolution, ont été restaurées récemment. Les sculpteurs du XXIe siècle ont su redonner vie au blason effacé depuis plus de 2 siècles. La chapelle. En 1533, François II de La Rochefoucauld meurt. Son fils François III, sur les recommandations testamentaires de son père, termine la construction de la chapelle, voûtée d'ogives sur des colonnes inspirées de l'art italien et dont l'abside remplit la grande tour. Les fenêtres à remplage révèlent le style gothique. Veuve, Anne de Polignac meurt un terme aux travaux du château et se retire à Verteuil. En 1539, elle y reçoit magnifiquement l'empereur Charles Quint qui déclare avoir vu 5 merveilles en ce royaume. Un monde, une ville, un village, un jardin et une maison. À savoir Paris, Orléans, Poitiers, Tours et la maison de La Rochefoucauld. Il ajoute n'avoir jamais entré en maison qui mieux sentit sa grande vertu, honnêteté et seigneurie que celle-là. Le château de La Rochefoucauld se définit comme une œuvre de la première Renaissance française, comme ses contemporains Chenonceau et Chambord. Je vous propose un instant musical, une chanson de Françoise Hardy, La fin de l'été, et je vous retrouve tout de suite après. Merci pour votre écoute.
Tu sais, j'en ai fait des voyages, j'en ai vu d'autres plages, je les ai oubliées. Tu sais, j'en ai vu des orages, on en voit à tout âge, à la fin de l'été. changer. Je sais, tu veux faire des voyages, oublier notre plage et tout abandonner. Et seul, je suis seul à chercher le pourquoi qui t'emporte aujourd'hui.
C'est la fin de l'été, l'automne s'installe, on le voit bien déjà pour ce week-end. Je continue, le château de la Rochefoucauld, nous venions de terminer la chapelle, l'architecture renaissance italienne. Et là nous entrons sur un autre passage, les guerres de religion. La vie semble suspendue. Cette période d'ouverture et de faste qu'est la Renaissance voit l'émergence d'un nouveau courant intellectuel, l'humanisme. Ce courant, renouant avec la civilisation gréco-romaine, contribue à la diffusion d'idées nouvelles comme la quête du savoir. Ainsi, l'individu, correctement instruit, reste libre et pleinement responsable de ses actes dans la croyance de son choix. Il remet ainsi en question la toute-puissance de l'Église catholique. L'essor de l'imprimerie permet de faire circuler largement ce mouvement qui donne naissance au protestantisme ou réforme. Hélas, la réforme et la contre-réforme deviennent deux églises fanatiques conduisant à une guerre de la foi. De nouveau, les années noires arrivent. François III de La Rochefoucauld, homme de guerre comme ses aïeux, épouse en première noces Sylvie Pic de la Mirandole en 1552 et très vite quitte sa jeune femme pour batailler sous les ordres du duc de Guise au siège de Metz. Deux ans plus tard, sa jeune épouse meurt à Verteuil, en mettant au monde leur premier enfant, le futur François IV. Un deuxième mariage avec Charlotte de Roy, belle-sœur du prince de Condé, chef des Huguenots, l'entraîne dans le camp protestant. Il est de toutes les batailles, à Dreux, à Jarnac, à Moncontour, souvent auprès de Henri de Navarre, futur Henri IV. Malgré son rôle important chez les réformistes, François III reste un ami intime du roi Charles IX, qu'il avait pris en amitié pour sa belle, douce et plaisante conversation, entre guillemets. Le 18 août 1572, à Notre-Dame de Paris, Henri de Navarre épouse Marguerite de Valois, sœur du roi Charles IX. Mariage organisé pour tenter de réconcilier protestants et catholiques. À cette occasion, le futur Henri IV a fait venir à Paris un grand nombre de nobles protestants, dont François III de La Rochefoucauld. Le massacre de la Saint-Barthélemy. Les noces tournent au massacre lors de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572, où près de 3000 protestants trouvent la mort. François III n'échappe pas à la tuerie. Ayant décidé l'élimination de tous les chefs protestants, sous l'influence de sa mère Catherine de Médicis, Charles IX veut sauver son ami de cette nuit tragique et lui demande de rester auprès de lui. « Ne pars pas, Foucault, reste auprès de moi. Nous balivernerons le reste de la nuit. Tu coucheras avec mes valets de chambre. » Cela ne se peut, les pieds leur puent. Adieu, petit maître, aurait répondu François, en plaisantant et loin d'imaginer qu'en rentrant chez lui, il serait assassiné par jalousie par le bouffon du roi dit Chicot. Son fils, François IV, alors âgé de 18 ans, échappe au massacre mené en bonne cachette par son gouverneur. Charles IX lui demande de se rallier aux Guises. Mais le jeune homme veut rester fidèle aux protestants et à la mémoire de son père. Il se jette alors dans les guerres de religion, aux côtés d'Henri de Navarre, qui le nomme colonel de son infanterie. Il lutte côte à côte contre les troupes de la Ligue, dirigée par Henri de Guise. Cette Ligue avait été organisée pour défendre le catholicisme contre les protestants, mais aussi pour détrôner Henri III. L'engagement de François IV à combattre les catholiques ne l'empêche pas d'épouser en 1587 Claude d'Estissac, issu d'une famille périgourdine qui élèvera ses enfants dans la religion catholique. Son oncle, Geoffroy d'Estissac, fut le protecteur et l'ami de François Rabelais. C'est en combattant les Ligueurs à Saint-Yrieix-la-Perche que François IV de La Rochefoucauld perd la vie à l'âge de 37 ans en 1591. Son fils François V n'a que 2 ans et demi. Premier duc de La Rochefoucauld. François V de La Rochefoucauld abjure la religion réformée pour se convertir au catholicisme et renoue avec la foi de ses ancêtres. Il exprime ainsi sa fidélité, sa reconnaissance au roi qui l'a nourri. Les protestants, malgré tout, cherchèrent à l'attirer de nouveau dans leur parti, mais François V leur demande, les conduisant dans la chapelle de son château, s'ils pensaient que les fondateurs eussent été des Huguenots. À la basilique Saint-Denis, le 13 mai 1610, il assiste au couronnement de la reine Marie de Médicis, épouse d'Henri IV. Le lendemain, le roi est assassiné par Ravaillac. La reine entame la régence. Son fils, le futur Louis XIII, n'a alors que 9 ans. La même année, Il achète la prestigieuse charge de maître de la garde-robe du roi, charge qui restera dans la famille jusqu'à la Révolution. En 1611, il épouse Gabrielle du Plessis-Liancourt, fille de Charles du Plessis, seigneur de Liancourt, et d'Antoinette de Pont, dame d'honneur de la reine Marie de Médicis. La cérémonie se déroule dans le cabinet du roi, en présence de la famille et des princes du sang. François et Gabrielle auront 12 enfants, dont l'aîné sera François VI. En 1616, lorsque Louis XIII épouse Anne d'Autriche, toute la cour se déplace jusqu'à la frontière espagnole. Et au retour, après que le mariage eut été célébré à Bordeaux, la troupe royale est reçue par François V en son château de La Rochefoucauld. Afin de le recevoir dignement, les derniers vestiges existants encore sur l'aile ouest du château et adossés au donjon sont remplacés. Ces constructions du XVIIe ayant brûlé par la suite, elles sont reconstruites au XVIIIe siècle. Ce sont celles que l'on connaît aujourd'hui. La façade médiévale de l'aile nord, avec sa tour dite de l'horloge, est rasée. La cour s'ouvre ainsi sur le paysage environnant. Il reçoit la lieutenance générale en Poitou, qu'il défendra contre les protestants et il contribuera à les défaire. À cette occasion, il est nommé gouverneur du Poitou, à la place d'Henri de Rohan, destitué. Les services du comte de La Rochefoucauld seront reconnus de façon éclatante après la bataille de La Rochelle et Louis XIII érige le comté de La Rochefoucauld en duché et prairie par lettre patente en 1622. Après une vie de combat et hostile comme la plupart des grands, au cardinal de Richelieu qui l'exilera en son château de Verteuil, François V meurt en 1650 à La Rochefoucauld. François VI, homme de guerre, homme de cour, homme de lettres. Avant de devenir le moraliste que nous connaissons, sa vie ressemble à une grande épopée romanesque. François VI de La Rochefoucauld naît à Paris le 15 décembre 1613. Tout comme ses ancêtres et selon la tradition, il est appelé à faire une glorieuse carrière militaire. Son père n'estime pas nécessaire de l'envoyer au collège, considérant qu'il doit prouver sa valeur bien plus que sa culture. Cependant, il a un précepteur jusqu'à l'âge de 13 ans qui lui donne le goût de la lecture. Madame de Maintenon dira de lui plus tard qu'il a une physionomie heureuse, l'air grand, beaucoup d'esprit, mais peu de savoir. Le jeune prince de Marcillac, titre qu'il portera jusqu'à la mort de son père et qui depuis François II de La Rochefoucauld qualifie l'aîné de la famille, est marié à l'âge de 14 ans, en 1628, à André de Vivonne, qui lui donnera 8 enfants. Très vite après son mariage, il part comme volontaire sur les champs de bataille et fait ses premières armes en Italie. À l'âge de 16 ans, il est déjà nommé colonel de régiment. Grâce à ses exploits militaires, il est reçu à la cour dans l'entourage de la reine Anne d'Autriche, dont il va devenir le chevalier servant. Il tentera même de la soustraire à l'autorité du tout-puissant cardinal de Richelieu. Commence pour le jeune et impétueux François une longue période de combats militaires, d'intrigues politiques et d'aventures amoureuses qui vont lui donner une vision très critique des hommes et des femmes, notamment ses amours malheureuses avec la duchesse de Chevreuse, très grande intrigante de cette époque troublée. La Fronde. S'ouvre une nouvelle période de désordre intérieur. Les révoltes protestantes et extérieures, les guerres simultanées contre l'Espagne et l'Empire. Face à ces nouveaux dangers, Louis XIII, avec le puissant Richelieu, veut installer une monarchie absolue, mais les grands du royaume refusent de se soumettre et s'unissent dans la Fronde. Le jeune Marcillac, prenant parti un peu vite contre Richelieu, est embastillé et envoyé en exil dans ses terres de Verteuil pour presque 2 ans et demi. À la mort du cardinal en 1642 et à celle de Louis XIII en 1643, il espère être récompensé de sa fidélité à la reine. Mazarin, nouveau ministre de la régente Anne d'Autriche, ne répondra pas à ses attentes. Compte tenu de son dévouement à la couronne, François espérait recevoir le titre de duc avant la mort de son père, l'autorisant ainsi à accéder au Louvre en carrosse. Sa femme aurait alors bénéficié de l'illustre privilège du tabouret qui permettait aux duchesses de s'asseoir en présence de la reine. Profondément déçu de ne pas obtenir cette faveur, il préfère rejoindre la Fronde dont il deviendra l'un des chefs. Le prince de Marcillac veut combattre ce manquement grave au contrat qui lie depuis des siècles le souverain aux grandes familles aristocratiques. Son monde s'écroule. François est persuadé n'avoir plus d'autre choix que la révolte pour rester fidèle à l'idéal que lui a transmis la chaîne des générations. Durant cette période, il a une liaison avec la duchesse de Longueville, dont il aura un fils adultérin. en 1650, son père meurt et il lui succède comme duc de La Rochefoucauld. Il s'allie à Condé, Conti et Longueville et ses intrigues le mènent à Bordeaux. Les frondeurs se heurtent aux troupes royales, une trêve est signée. Cela n'empêche pas Mazarin de faire raser le château de Verteuil, considérant François VI comme un traître. Au cours de ces combats militaires, où il se distingua, François est blessé à deux reprises, et plus gravement lors d'un combat au faubourg Saint-Antoine, où il perdra la vue pendant un certain temps à la suite d'un coup de mousquet reçu en plein visage. Louis XIV lui propose une amnistie qu'il refuse et s'exile en Flandre. Sa santé étant chancelante, il se retire progressivement de la fronde. C'est grâce à son fidèle Gourville, son intendant, que François VI peut rentrer en France et se retirer dans ses terres où il va procéder à la reconstruction de Verteuil et se consacrer à ses affaires matérielles bien mauvaises. Il utilise ses forces à se refaire une santé physique et un équilibre moral. En 1653, la paix est conclue et la période des grands troubles intérieurs se termine. À l'âge de 50 ans, François VI, fatigué, mène une vie retirée, se partageant entre Verteuil, La Rochefoucauld et Paris. Il entame alors la seconde partie de sa vie, qui sera celle d'un homme de lettres. Il participe assidûment au salon littéraire où il fréquente Madame de Sablé, Madame de Sévigné, Mademoiselle de Montpensier, Mademoiselle de Scudéry et Madame de Lafayette, avec laquelle il entretiendra une amitié jusqu'à la fin de sa vie. Encouragé par la fréquentation de ces beaux esprits, François VI rédige sa première œuvre littéraire, son portrait, et 3 ans plus tard, ses mémoires, et enfin, en 1665, ses maximes. Dans cet ouvrage, il pénètre dans le cœur de l'homme, découvrant les mobiles secrets de nos actions à travers sa propre expérience de la vie. Plusieurs thèmes y sont développés, l'intérêt, l'orgueil, la vanité et les passions. Face à ses réflexions pessimistes sur la nature humaine, sa lucidité lui permet d'apporter des solutions constructives fondées sur l'humilité et la sincérité. Par leur acuité, leur justesse et la beauté de leur style, ces maximes sont toujours d'actualité. Jean de La Fontaine, séduit par cette œuvre mordante sur la comédie des vertus humaines, lui dédie sa fable numéro 11, L'homme et son image. Moraliste et écrivain, reconnu par ses pairs, La Rochefoucauld aurait pu rejoindre la toute récente Académie française s'il en avait fait la demande. Il meurt à Paris le 17 mars 1680, d'une longue agonie due à d'atroces crises de goutte. Il reçoit l'extrême onction de Bossuet et meurt dans ses bras. Les Maximes restent une très belle œuvre de la langue française. Je terminerai cette partie de lecture avec quelques maximes qui nous sont proposées. Nous gagnerons plus de nous laisser voir tels que nous sommes que d'essayer de paraître ce que nous ne sommes pas. Un véritable ami est le plus grand de tous les biens et celui de tous qu'on songe le moins à acquérir. Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit. L'amour-propre est le plus grand de tous les flatteurs. Il y a des héros en mal comme en bien. Et enfin, le soleil ni la mort ne peuvent se regarder fixement. Il est bientôt 15h. 15h01 même, il est. Je vous propose de terminer cette émission, donc sur ces quelques maximes que je vous ai lues. Je n'ai pas terminé le livre en question. Donc je terminerai ce livre à notre prochain rendez-vous le samedi 19 octobre de 14h à 15h pour votre émission À vos oreilles avec Alizée, que vous pouvez donc écouter sur Radiodiffusion Charente, 93.4, 92.5 en région de Sainte, sur internet www.radio-6rdcfm.com. Merci à tous, auditeurs, auditrices de Charente, de France, de peut-être même d'autres pays. Merci pour votre écoute. Ce fut un très très bon moment pour moi, un réel plaisir de vous lire cette histoire de ce château qui est proche de nous, qui est dans notre région. Je vous invite bien sûr à le visiter si vous le pouvez, si vous le souhaitez. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end. Malgré la pluie qui arrive, prenez bien soin de vous, restez au chaud et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission, toujours sur ce format, et la suite des histoires du château de La Rochefoucauld. Bonne journée à vous, bon week-end. Thank you.